Bien, si vous voulez, on va commencer. Donc, je rappelle que tout à l'heure, à 11h et mardi prochain, auront lieu les deux conférences que le professeur Alan Griffin, professeur de l'Université de Toronto, doit donner. Il en aura également deux à Grenoble. Il donne deux conférences à Paris, donc ces deux jours-là, sur Two Fluid Hydrodynamics of Carbon Gases. Je rappelle aussi que j'arrête le cours fin novembre cette année parce que je suis à l'étranger tout le mois de décembre. Et j'arrête aussi les séminaires, mais les séminaires continueront au mois de décembre à l'école normale, tout ailleurs. Et en janvier, il y aura également le cours de Serge Roche qui commencera au Collège de France. Et reprendront ici, donc ça sera les séminaires du cours de Serge Roche. Mais je signale que je comptais inviter le professeur David Séperlé qui est actuellement à Lyon. Il n'a pas pu venir ni en octobre ni en novembre, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas pu organiser son séminaire. Mais il va faire un séminaire le mardi 4 décembre à la boucherie d'école normale supérieure en salle 316 sur des méthodes de calcul d'intégrale de chemin. Donc ceux d'entre vous qui s'intéressent, je signale donc l'existence de ce séminaire. Donc je reprends maintenant le cours d'aujourd'hui et avant d'aborder le nouveau chapitre, je voudrais compléter, faire une toute petite remarque à propos du cours de la semaine dernière qui m'a été suggéré par le séminaire qu'a fait Jean Dalibard la semaine dernière à la fin du cours. Je rappelle que la semaine dernière, nous avons considéré les modes M égale plus 2 et M égale moins 2, donc on prend ça dans un piège à symétrie cylindrique. Donc c'est des modes quadripolaires qui tournent à la fréquence oméga Q sur racine de 2 dans un sens et dans l'autre. Et j'ai établi des règles de somme exactes sur les opérateurs f plus moins, somme sur i de 1 à n de xi plus ou moins i, y au carré, qui excite les modes m plus 2, m égale plus 2 et m égale moins 2, j'établis des règles de somme exactes sur ces deux opérateurs. Si je définis la densité spectrale s plus 2 et par la relation somme sur tous les états excités du condensat partant de l'état ψ0, de l'élément de matrice de f plus ou f moins entre ψ0 et l'état excité quelconque au carré, qui multiplie une fonction delta centrée à la fréquence qui sépare l'état 0 de l'état n. Donc ça, c'est une densité spectrale. On peut ensuite définir les moments d'ordre P de cette densité spectrale. On a défini des moments un peu particuliers qui sont une combinaison des moments de S plus et des moments de S moins que j'ai appelé M indice P plus ou moins. C'est le moment d'ordre P. On prend l'intégrale sur E, on multiplie par E à la puissance P et on prend S plus de E plus ou moins S moins de E, suivant qu'on prend plus ou moins ici. Alors, ces moments peuvent être exprimés sous forme de commutateurs de ces opérateurs avec la Hamiltonienne du système. Ça, c'est exact, il n'y a aucune approximation. Et on peut calculer ces commutateurs à partir des relations de commutation canoniques. Et j'ai démontré un certain nombre de formules la semaine dernière. Tout au moins, j'ai donné les principes du calcul et j'ai donné les résultats. J'ai trouvé que M0 moins égale 0, que M1 plus égale 8 NH bar 2 sur M, valeur moyenne de R perpendiculaire au carré, R perpendiculaire, c'est-à-dire X2 plus Y2, dans l'état dont je parle, ψ0, qui peut ou non contenir un vortex. Ça, c'était la formule 730. J'ai calculé M de moins, qui est donné par cette expression, et là, je me suis rendu compte, en reprenant ça, que je viens d'oublier, il y a un lapsus dans les notes, il y a un au carré, M2 au carré, LZ0, équation 732, et j'ai donné aussi M3 plus, M4 moins, M5 plus. Je redonne ici M4 moins, 64, F bar 5, N sur M au carré, oméga perpendiculaire au carré, LZ0, c'était la formule 750. Donc ces formules sont exactes. Si maintenant on prend une approximation, l'approximation des deux transitions prédominantes, ici je suppose que dans S plus de E, il n'y a qu'une transition qui l'emporte sur tous les autres, parce que sa force oscillateur est beaucoup plus grande que toutes les autres, et dans S moins de E de même, ça aurait bien posé S plus ou moins de E. Cette somme se réduit à un seul terme. Et ce terme, c'est sigma plus ou moins delta de E moins H bar oméga plus ou moins. Ça, c'est l'approximation des deux transitions prédominantes, qui est d'autant plus valable que le système est plus collectif, c'est-à-dire qu'il contient beaucoup plus d'atomes. Alors, si c'est ça, si je prends cette approximation, à ce moment-là, je regarde ce que me donnent toutes ces formules. La première formule, M0 moins égale 0, me donne sigma plus égale sigma moins égale sigma. Les deux transitions ont le même poids. Et puis, je peux obtenir à ce moment-là des formules très simples pour M1+, ça va être égal à H bar sigma, oméga plus oméga moins. Dans cette somme, il n'y a qu'un terme qui apparaît, donc, en remplaçant S prime par cette expression qui contient ceci, j'obtiens M2 moins égale H bar 2 sigma oméga plus carré moins au moins, moins carré, et M4 moins égale H bar 4, ici je m'excuse, c'est H bar 3, hein, H bar 5 sigma oméga perpendiculaire, non, H bar sigma oméga plus à la puissance 4, moins oméga moins à la puissance 4. Je crois que je me trompe ici, c'est H bar 2 parce qu'il y a deux fois l'énergie, et ici c'est H bar 4. Voilà. Donc ces formules sont exactes, ces formules sont approchées si l'approximation des deux transitions prédominantes est valable. À ce moment-là, vous voyez que si je fais le quotient de M2 moins par M1 plus, les sigmas vont s'en aller, et je vais obtenir oméga plus au carré moins oméga moins au carré divisé par oméga plus oméga moins, ça va me donner oméga plus moins oméga moins. Et c'est tout le cours de la semaine dernière porté sur le fait que, en présence d'un tourbillon, les fréquences des modes plus 2 et moins 2 n'étaient pas les mêmes, et la différence oméga plus moins oméga moins était le rapport de M2 moins sur M1 plus, et vous voyez, quand vous comparez ces deux formules-là, les n sont ronds, il va rester LZ0. Donc la différence entre les deux fréquences est proportionnelle à LZ0, et la mesure de la fréquence de cette différence de fréquence me donne le moment cinétique du condensat, et me permet éventuellement de détecter la présence d'un tourbillon. Alors on peut aller un petit peu plus loin, et c'est très facile à partir de ces formules. Si c'est maintenant M4- sur M2+, M2-, alors je vais avoir les sigmas vont s'en aller, je vais avoir H bar 2, oméga plus à la puissance 4, moins oméga moins à la puissance 4, sur oméga plus au carré, moins oméga moins au carré, et ça tout simplement c'est H bar 2, oméga plus oméga moins carré. Et si je fais le quotient de M4 moins par M2 moins, 64 divisé par 7, ça va me faire 4, H bar 2, les N s'en vont, les M2 s'en vont, les LZ 0 s'en vont, et j'obtiens ceci égale 4 H bar 2 oméga perpendiculaire à la puissance carré. Ce qui me donne une règle de somme extrêmement simple, oméga plus carré plus oméga moins carré égale 4 oméga perpendiculaire carré. Alors, j'ai emprunté à Jean une de ces diapos de la semaine dernière, et la voici. Ici, on mesure donc expérimentalement oméga plus et oméga moins séparément pour diverses conditions expérimentales. Et on porte la somme oméga plus carré plus oméga moins carré sur 2 racine carré 2. Et on obtient une constante remarquable ici. Laquelle constante coïncide avec racine de 2 oméga perpendiculaire. En effet, si on élève ça et ça au carré, on va trouver oméga plus carré plus oméga moins carré égale 4 oméga perpendiculaire carré. Donc ça, c'est une très belle vérification des conséquences des règles de somme. On peut vérifier, donc, quelles que soient les conditions expérimentales, si on garde oméga plus, oméga perpendiculaire, évidemment, constant, on a oméga x plus carré plus oméga moins carré égale 4 oméga perpendiculaire carré, et oméga plus moins oméga moins me donne la formule que j'ai donnée la semaine dernière, un peu plus 2LZ sur MR2 perpendiculaire carré, ça me permet de mesurer le moment cinétique du tourbillon. Donc, cette remarque était donc pour terminer le cours de la semaine passée, et j'aborde maintenant donc le chapitre d'aujourd'hui. Alors, jusqu'à présent, j'ai toujours étudié uniquement, dans tous les cours qui précèdent, le condensat tout seul. Je supposais que on était à température suffisamment basse pour que la population du nuage thermique soit négligeable, et je me suis intéressé uniquement aux propriétés de rotation du condensat tout seul. Ce que je voudrais consacrer, ces deux dernières séances, celle de cette semaine et celle de la semaine prochaine, à l'étude du nuage, en supposant qu'on est au-dessus de TC et qu'il n'y a aucune partie du condensat. J'ai choisi de prendre cette offre parce que j'ai pensé que ce serait intéressant d'avoir en parallèle les cours d'Alain Griffin qui va parler lui d'une situation plus riche et plus intéressante où il y a à la fois le condensat et le nuage, il parlera du modèle à deux fluides, le modèle hydrodynamique à deux fluides. Donc j'ai consacré les deux séances d'aujourd'hui et de mardi prochain à l'étude donc du nuage et des modes propres de vibration du nuage. Aujourd'hui, je vais m'intéresser à la transition entre le régime sans collision et le régime hydrodynamique. Et la semaine prochaine, je m'intéresserai plus particulièrement au régime hydrodynamique. Donc aujourd'hui, le cours d'aujourd'hui, c'est donc gaz classique dans un gaz harmonique. Mode propre de vibration, Et je voudrais commencer un peu par une introduction qui va me préciser ce que je veux faire. Je considère donc que j'ai des atomes qui sont piégés dans un potentiel harmonique. Je vais me limiter aujourd'hui au cas d'un gaz classique, c'est-à-dire que je ne tiendrai pas compte de la statistique. Je suppose qu'on est très au-dessus de TC, donc je n'ai pas besoin de tenir compte de la statistique de Gauss. La semaine prochaine, je ferai un traitement plus précis à la limite hydrodynamique en incluant la statistique de Gauss sur le gaz, c'est-à-dire en étudiant le gaz, même si on est proche de TC. Et ce que je veux, ce à quoi je m'intéresse aujourd'hui, c'est quels sont les modes propres de vibration d'un tel système, quelles sont les fréquences propres et aussi quels sont les taux d'amortissement, parce que jusqu'à présent, je n'ai pas parlé beaucoup des taux d'amortissement dans un condensat. Si on néglige les interactions avec les excitations élémentaires du condensat, quand il y en a, à ce moment-là, on n'a pas d'amortissement. Alors, il y a deux régimes extrêmes dans cette étude. Le régime sans collision, où le libre parcours moyen entre deux collisions est beaucoup plus grand que les dimensions du nuage, et où par conséquent, chaque atome effectue de nombreuses oscillations dans le piège avant de subir une collision. Et à ce moment-là, le modèle du gaz parfait que j'ai pris à plusieurs reprises pour étudier des cas limites s'applique parfaitement bien. On a un gaz parfait. Les atomes n'interagissent pas, il n'y a pas de collision. Alors, je n'aborde pas non plus ici les effets de champ moyen dans le nuage thermique, effets qui sont très intéressants, qui font actuellement l'objet d'investigations très intéressantes de la part de David Galliaud-Dehaene. Donc, je néglige tout effet de champ moyen dans le nuage thermique. Et il y a un autre régime extrême, au contraire, la situation opposée où l'atome subit plusieurs collisions pendant une période d'oscillation et où le libre parcours moyen est petit devant les dimensions du nuage. À ce moment-là, nous savons que s'il y a plusieurs collisions, avant que l'atome ait eu le temps de bouger, on a le temps d'atteindre un équilibre thermodynamique en chaque point du nuage. Ça, c'est ce qu'on appelle le régime hydrodynamique. Alors, ce que je voudrais, les motivations de ces deux dernières séances sont multiples. D'abord, je voudrais comparer le comportement du nuage thermique à celui du condensat étudié dans les cours antérieurs, dans les mêmes conditions, en particulier, par exemple, pour les modes ciseaux, comment se comporte le condensat vis-à-vis du nuage thermique. Je voudrais ne pas me contenter de décrire le nuage thermique par un gaz parfait, ce que j'ai fait à plusieurs reprises, parce que c'est simple, et ça permet tout de suite d'avoir quand même des idées intéressantes. Mais là, je voudrais étudier également l'effet des collisions. Et je voudrais aussi étudier surtout la transition continue qui peut se passer quand, augmentant la densité du nuage, on passe continuellement du régime sans collision au régime hydrodynamique. C'est ça la motivation essentielle donc, du cours d'aujourd'hui. Alors, la méthode que je vais suivre, je m'excuse, il y a un S à qui fournir. La méthode suivie est celle qui est exposée dans la référence 19, qui est un article de David Galliaud-Dehaene, Zambellis, Trinari et Daliba, qui est donné le référence 19. Donc, la méthode consiste à partir de l'équation de Boltzmann, qui décrit l'évolution de la distribution dans l'espace des phases sous l'effet des collisions binaires entre atomes. Alors, j'avais déjà étudié d'ailleurs à propos du refroidissement évaporatif il y a quelques années, en 1996-1997, l'équation de Boltzmann, et j'avais consacré presque un cours entier à rappeler toutes les propriétés de cette équation. À partir de l'équation de Boltzmann, on peut déduire l'équation d'évolution des valeurs moyennes de grandeur physique relier, c'est pas n'importe lequel, ce sont reliés au mode de vibration qu'on étudie. Par exemple, si j'étudie un mode de compression sphérique, je prends R2. Si je prends un mode quadrupolaire, je prends R2-3Z2, et ainsi de suite. Si je prends les modes ciseaux, j'étudie XY. Alors, quand on étudie l'évolution de la valeur moyenne d'une grandeur, cette grandeur, cette valeur moyenne est couplée à la valeur moyenne d'une autre grandeur, laquelle est couplée à la valeur moyenne d'une autre grandeur, et ainsi de suite, et on obtient une hiérarchie d'équations couplées les unes avec les autres. Et il faut trouver une approximation pour obtenir un système fini d'équations avec une structure simple. On résout ensuite ce système et on obtient les fréquences propres et les taux d'amortissement. Voilà donc la méthode suivie. Et le plan dans cours d'aujourd'hui, d'abord, j'ai partirai de l'équation de Boltzmann, puis j'étudierai l'équation d'évolution des valeurs moyennes. J'insisterai beaucoup sur une notion importante dans cette étude qui est l'existence de grandeurs physiques qui sont conservées au cours des collisions. Qui, au cours d'une collision, ces grandeurs physiques ne changent pas et ces grandeurs jouent un rôle fondamental parce que leur évolution est simple. Dans l'équation de Boltzmann, le terme décrivant l'effet des collisions ne contribue pas à leur évolution. Et je reprendrai d'ailleurs ces grandeurs la semaine prochaine pour obtenir ce qu'on appelle les lois de conservation locale de l'hydrodynamique. Puis j'étudierai un premier exemple simple, où on peut faire les calculs au tableau. Et au lieu de prendre l'exemple qui est étudié dans l'article de la référence 19, où il y a beaucoup d'équations, beaucoup de grandeurs qui sont couplées les unes aux autres, je prendrai un cas plus simple, mais à moins, et qui me permettra de faire le raccord avec un cours antérieur, j'appliquerai cette méthode au mode ciseaux. Parce qu'il n'y a que 4 grandeurs qui sont couplées les unes aux autres, et on peut calculer les fréquences propres et les taux d'amortissement des modes ciseaux et comparer les résultats obtenus aux résultats obtenus pour un condensat. Et enfin, j'insisterai pour terminer sur la transition, la courbe qui donne la transition entre le régime sans collision et le régime hydrodynamique. Donc après cette introduction, donc, où je rappelle que ce que je cherche à calculer, c'est la transition du régime sans collision au régime hydrodynamique, je voudrais maintenant rappeler un petit peu l'équation de Boltzmann. Alors, la référence 20 que je mentionne ici, c'est le bouquin classique de Lang, Statistical Mechanics. Et je rappelle également, pour 96-97, pas 6-4. Ce cours est sur le web, donc si vous ne l'avez pas, vous pouvez le rapatrier. Il y a donc 4 pages en détail sur l'équation de Boltzmann. Alors, je rappelle ici l'équation de Boltzmann avec des notations légèrement différentes de celles du cours 96-97 pour faciliter la lecture de la référence 19, j'ai repris les notations de la référence 19. Donc, D sur DT partiel de la distribution dans l'espace des phases F de R, V1 et de T, plus V1 gradient R, F de R, V1 et de T, plus moins 1 sur M gradient R d'extérieur de R, scalaire gradient V1 de F de R, V1 et T, ces trois morceaux, cela vient d'autre que la dérivée totale de F de R, V1 et T, c'est la dérivée par rapport au temps, plus la dérivée par rapport à R, qui multiplie la dérivée de R par rapport au temps qui est la vitesse, plus la dérivée par rapport à V, qui multiplie la dérivée de V par rapport à T, qui est la force, et la force est moins le gradient du potentiel de plaisir, divisé par R. Donc tout ceci, ça me représente, quand je me déplace avec les particules, quelle est la variation de la densité dans l'espace des phases. Et cette variation, s'il n'y avait pas de collision, elle serait constante, les particules se conservent, et il y a des collisions, et c'est le terme qui va décrire qu'il y a des particules qui vont quitter cette région de l'espace des phases et qui vont être remplacées par d'autres. Et ce terme décrit un flux de départ, la particule V1 à laquelle je m'intéresse, puisque je m'intéresse à R, V1 et T, subit une collision avec une particule V2, ça la fait partir de ce volume de l'espace des phases, et ça va vers un état V'1, V'2. C'est-à-dire une collision V1, V2 vers V'1, V'2. Et dans cette formule, sigma 0, c'est la friction efficace, où A est la longueur de diffusion, et oméga prime, c'est l'angle solide dans la direction de V'1 moins V'2. Je crois que, plutôt que de parler, il vaut mieux faire une petite figure. Alors là, je me rends compte de ce truc bizarre, c'est qu'il y a un cercle qui ne ressort pas. Il y a un cercle sur les notes. Si vous regardez les notes, il y a un cercle. Voilà. Alors, ça, c'est la collision dans le système du centre de masse. Voilà V1 et V2. Les deux, la vitesse initiale de la particule 1 qui rentre en collision avec une particule 2. Les deux particules ont la même masse, donc le centre de masse, c'est V1 plus V2 sur 2, la vitesse du centre de masse, c'est C. Et V sur 2, grand V sur 2 et moins grand V sur 2, c'est les vitesses des deux particules dans le système du centre de masse, en posant grand V égale V1 moins V2. D'accord ? Quand il y a une collision, il y a conservation de l'impulsion, conservation de l'énergie. Donc, après la collision, grand V' sur 2 et moins grand V' sur 2 sont de même module. C'est pour ça que ces trois, ces quatre vecteurs là sont sur la même sphère. Et comme l'énergie est conservée, j'ai V carré sur 4 plus V carré sur 4 égale V' carré sur 4 plus V' carré sur 4. Donc, module de V égale module de V'. Et la collision est entièrement définie si je me donne les angles polaires θ et φ, donc l'angle solide dans lequel pointe la vitesse finale, V' égale V'1 moins V'2. Voici donc la collision donc, décrite dans le système du centre de masse. Donc vous voyez que si je me donne V1, V2 et oméga prime, je connais tout sur la collision. Alors, je signale simplement quelques petits changements de notation. On étudie ici la collision V1 plus V2 dans V'1 plus V'2. Dans le cours 96-97, je prenais des impulsions et non pas des vitesses, et j'étudiais P3 plus P4 dans P1 plus V2. Et ici, la distribution dans l'espace des phases est normalisée à N, somme de D3R, D3V de F, c'est N, alors que dans le cours 96-97, F c'était vraiment un nombre d'occupations, c'est-à-dire que F sur H, sur H cube, H cube c'est le volume de la cellule élémentaire dans l'espace des phases, F sur H plus, c'est le nombre d'occupations auquel on peut donner, par exemple, la formule de la statistique de Bose-Einstein ou de Fermi-Dirac. Bon, à part ces questions de normalisation et de notation, les équations sont les mêmes. Alors, après ce rappel, donc, j'étudie maintenant l'évolution d'une grandeur physique phi de Rv, soit une grandeur physique qui dépend de R et de V. Sa valeur moyenne, c'est défini par somme de D3R, D3V, qui de RV, F de R, V et T, divisé par l'intégrale de F de R, V et T, qui est 1 sur N, donc c'est 1 sur R. Donc, si je connais la fonction de distribution, je connais la valeur moyenne de n'importe quelle grandeur physique, et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la vitesse de variation de cette valeur moyenne. Donc, je veux calculer D sur DT de qui de R et V. En effet, comme la fonction de distribution bouge, la valeur moyenne va changer. Alors, on reporte dans cette équation D sur DT de F de R et V T, qui est donnée par l'équation de Boltzmann. Les deux premiers termes sont simples, parce que ça fait intervenir un gradient de R et un gradient de V. Une intégration de par partie va me donner un terme tout intégré qui est nul, parce que la fonction de distribution s'annule à l'infini. Et un terme avec un signe opposé qui va agir, maintenant le delta R va agir sur qui et non plus sur F, et l'intégrale sur F va me donner une valeur moyenne. Donc les premiers termes vont me donner moins D sur DR, pas me tromper, moins, et ainsi moins parce que c'est une intégration par partie, moins V scalaire, gradient R de qui. Et puis l'autre terme qui était moins 1 sur M va me donner plus 1 sur M. Vers la moyenne de gradient R de F extérieur, de V extérieur, pardon, scalaire, gradient V, de qui? Donc ça c'est les termes que je dirais hamiltoniens. Et enfin, il y a un terme égal D sur DT de valeur moyenne de qui? Dû aux collisions. Obtenu en multipliant le dernier terme par qui et en intégrant sur R3 et V1. Alors, ce que je voudrais faire maintenant, donc je reviens ici. Voilà, ça c'est ce que j'ai écrit au tableau, c'est réécrit ici. Et D sur DT de qui dû aux collisions, c'est sigma 0 sur 4πn. Somme de D oméga prime, D3R, D3V1, D3V2, I de R de 1, V de moins V1, F de V'1, F de V'2, moins F de V1, F de V2. Alors maintenant je vais passer un petit bout de temps, parce que je crois que c'est important, et parce que je m'en servirai aussi la semaine prochaine, vous parler des grandeurs conservées par lors des collisions. La démonstration n'est pas très difficile, donc je vais la faire ici. Voilà une première expression de D sur DT de qui collision. Elle est marquée ici. J'en fais une deuxième. Je peux dire aussi, comme V1 était une variable muette tout à l'heure, j'ai multiplié par qui de RV1, F de RV1T, j'ai intégré sur V1, je peux remplacer V1 par V2 et intégrer sur V2. Et j'ai une expression strictement équivalente pour D sur DT de valeur moyenne de qui collision. Et je considère la même collision, V1 plus V2, donc V'1 plus V'2. Et maintenant, je multiplie par V2, qui de RV2, et par D sur DT de F de RV2 collision, et j'ai tête sur V2. Alors, je reviens à D sur DT de F, RV2 et de T, et qui vont revenir en arrière. Je remplace V1 par V2 ici. Puis, comme la collision V1 plus V2, donc V'1 plus V'2, c'est la même chose que V2 plus V1 donne V'2 plus V'1. Je peux permuter dans cette équation ici V1, V2. Comme V2 moins V1, c'est V1 moins V2 en module. Et j'avais ici un D3, V1 au lieu de D3, V2. Et je reviens en arrière. J'aurai donc un D3, V2, D3, V1. Et j'obtiens donc D sur DT de qui collision, c'est sigma 0 sur 4πn, somme de d oméga prime, d3 v1, d3 v1, d3 v2, le même crochet ici, le même d2 moins v1, ici c'est qui de rv2. Vous voyez, si je reviens en arrière, la seule chose qui est changée ici, c'est qu'au lieu d'avoir qui de rv1, tout le reste est le même, puisque j'intègre à la fois sur v1 et v2, c'est symétrique, hein, je vais avoir qui de rv2. Et notons bien que v1, v2, v'1, v'2 ont les mêmes valeurs dans les deux termes à intégrer dans tout ce qui reste ici. Hein. C'est la même collision que je considère. Alors maintenant, je vais me servir des symétries des collisions. Si la collision V1 plus V2 donne V'1 plus V'2 est une collision possible, si on fait un renversement du sens du temps, il faut changer le sens de la flèche ici, V'1 va devenir moins V'1, V'2 va devenir moins V'2, V1 va devenir moins V1 moins V2, donc si cette collision est possible, la collision moins V'1 plus moins V'2 donne moins V1, que moins V1 dans le... dans la parenthèse là, plus moins V2, est également possible. Maintenant, l'invariance par réflexion d'espace de l'interaction des particules entraîne que si cette collision est possible, la collision où je change tous les signes moins ici en signe plus est aussi possible. Donc ça veut dire que V'1 plus V'2 donne V1 plus V2. Donc si cette collision est possible, la collision V'1 plus V'2 donne V1 plus V2 est également possible. Par ailleurs, en passant du système du labo au système du centre de masse, avant la collision, après la collision, en utilisant le jacobien qui permet de passer de V1, V2 à grand CV, ou de V'1, V'2 à grand CV, on démontre aisément que D3, V'1, D3, V'2 égale D3, V1, D3, V2. L'élément de volume est le même. Ça, je vous reporte donc à ces deux équations du cours 96-97. Donc, à ce moment-là, si je considère la collision V'1 plus V'2 donne V1 plus V2, je peux réexprimer la variation due aux collisions de dans la moyenne de qui comme 1 sur n, somme de d3r, somme de d3v'1, qui de rv'1, d sur dt de frv'1 et de t. Ou d sur dt de frv'1 et t due aux collisions, c'est la même expression que tout à l'heure, à part que je permute v1v2 avec v'1v'2. Donc c'est ce que j'ai réécrit ici. Vous voyez qu'au lieu d'avoir f de v'1, f de v'2 moins f de v1, f de v2, j'ai maintenant f de v1, f de v2, moins f de v'1, f de v'2. Ce terme-là a changé de signe, parce que j'ai permuté v1, v2 avec v'1, v'2. J'ai ici v'1, v'2 au lieu de v1, v2. Ici, j'ai v'2 moins v'1 au lieu de v2 moins v1. Et ici, j'ai bien sûr qui de rv'1. Alors, je me sers du fait que le module de v'2 moins v'1 est aussi égal au module de v2 moins v1, Et comme je l'ai dit tout à l'heure, que D3V1, D3V2 est égal à D3V'1, D3V'2. Et quand je fais ça, quand il y a une autre expression équivalente de D sur DT de qui collision, c'est sigma 0 sur 4πn, j'ai V1V2 ici, V1 moins V2 ici, ici j'ai V'1, mais ici, attention, au lieu d'avoir V'1, V'2 moins V1V2, j'ai V1V2 moins V'1, V'2. Donc ça, ça change de signe. Puis ce que j'ai fait pour V'1, je pourrais le faire pour V'2, et un calcul analogue donne la même expression de ceci avec ici qui de R et de V'2. Donc finalement, j'ai obtenu quatre expressions équivalentes de D sur DT de qui collision, celle-là, celle-là. Celle-là et celle-là. Et chaque fois, la seule assistance, c'est ça. Et dans les deux premières, j'ai ça. Et dans les deux dernières, j'ai le signe opposé. Donc j'ai quatre expressions équivalentes. Je les ajoute les quatre et les divise par quatre. Et j'obtiens donc une expression plus symétrique qui me fait intervenir les quatre vitesses pour D sur DT de qui collision, qui est donnée ici. Qui est D sur DT de qui collision. Il y a le sigma 0 sur 16 pn, le 16 ça vient du 4 fois 4, somme de D2 oméga prime, D3R, D3V1, D3V2, et puis j'ai ici qui de RV1 plus qui de RV2 moins qui de RV'1 moins qui de RV'2, et puis ici j'ai remis tout dans le même sens ici, c'est pour ça qu'il y a des sigmas là et un sigma là. D'accord? Et j'ai donc cette formule là. Alors, de cette formule, il apparaît immédiatement, c'est ça le résultat important, que si qui de R et de V1 plus qui de R et de V2 est égal à qui de R V'1 plus qui de R V'2. Si cette condition est satisfaite, à ce moment-là, la valeur moyenne de qui ne change pas au cours de la collision. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la valeur qui est conservée au cours de la collision. D'accord? Puisque sa valeur V1 plus sa valeur V2 est égale à la valeur V'1 plus sa valeur V'1. Exemple de grandeur qui sont conservées au cours de la collision, la vitesse. Puisque je sais que la conservation et l'impulsion, comme les masses sont égales, entraîne que V1 plus V2 égale V'1 plus V'2. Autre exemple, V carré. La conservation d'énergie implique que V1 carré plus V2 carré égale V'1 carré plus V'2 carré. Autre chose, une grandeur locale qui ne dépend pas de V, comme la collision ne change pas la position, ça reste la même. Donc on en conclut que toute grandeur de la forme qui de RV égale A de R plus B de R scalaire V plus C de R scalaire V2 que multiplie V2, pardon, où A de R, B de R et C de R sont des fonctions quelconques de R, toute grandeur de ce type, D sur DT de qui collision égale 0. Donc ça veut dire que dans l'équation d'évolution ici, ce terme n'existe pas, et la première partie se calcule de manière extrêmement simple. Donc, muni de ce résultat, je vais pouvoir maintenant vous montrer un premier exemple simple. Ce que je peux faire au tableau, parce qu'il est vraiment très simple. J'ai étudié le mode L égale 2, M égale 0, dans un piège sphérique. C'est le monopole, c'est le mode de respiration. Hein, c'est le mode de respiration. Alors, R2 est visiblement une grandeur conservée par collision, donc j'écris D sur DT de R2. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai? Donc, ce terme n'existe pas. Gradient R de R2, c'est 2R. Donc, nous avons ici moins 2 valeur moyenne de RV. Alors, le piège sphérique, ça veut dire que V extérieur, c'est 1 demi de M oméga 0 de R2. et donc le gradient de l'extérieur, c'est m oméga 0 de r. Donc avoir 1 sur m, plus 1 sur m que multiplie m oméga 0 de r, et gradient v, c'est 0. R2, quand je prends qui égale R2, c'est 0. Donc, et puis ça, c'est 0. Donc première équation, d sur dt de R2 moins 2 RV égale 0. Ça, ça suffit pas. Il faut maintenant donc le calcul d sur dt de RV. Et alors, le gradient de RV par rapport à R, c'est V. Donc, moins V, scalaire V, ça fait moins V2. Moins égale à la moyenne de V2. Plus, alors, 1 sur M, M s'en va, oméga 0 de R, gradient par rapport à V de RV, c'est R. Donc, on va avoir plus oméga 0 de R, plus oméga 0 de R2. Et le terme des collisions, RV, c'est linéaire en V, c'est donc de cette forme-là, le terme de collision n'intervient pas, égale 0. Alors, je vois réapparaître R2, mais je vois apparaître une nouvelle grandeur qui est V2. Donc, il faut que je calcule D sur DT de V2. Alors, moins gradient R de V2, c'est nul, donc ce terme ne sera pas. 1 sur m, oméga 0 de r, et gradient par rapport à v de v2, c'est 2v, donc on va avoir plus oméga 0 de, 2 oméga 0 de rv. Et puis, v2, c'est quadratique en v, c'est la forme du terme c de rv2, le dernier terme n'intervient pas. Et ça, ça fait 0. Alors, je signale en passant qu'il y a un lapsus dans l'article 19. Ce terme-là est faux. C'est le vrai terme, je crois que c'est... Je crois que je ne suis pas trompé au tableau, c'est ça. C'est 2 oméga 0 de R scalaire. Alors là, je suis content parce que je ne vois plus apparaître de nouvelles grandeurs. Ça veut dire que valeur moyenne de R2, valeur moyenne de V2, valeur moyenne de RV obéissent à un système d'équations fermées. Et il n'y a aucun terme de collision. Toutes ces grandeurs ne sont pas... Les collisions n'apparaissent nulle part ici. Système de trois équations différentielles linéaires couplées. Je cherche une solution de ce terme, de la formule puissance I oméga t, ça donne un I oméga ici, I oméga. Pour que la solution soit pas la solution trivialement nulle, il faut que le déterminant correspondant soit nul, et j'obtiens une équation valeur propre pour oméga. Et bon, ça c'est vraiment facile, hein, le tableau. Et on trouve comme équation valeur propre, oméga, que multiplie oméga 2 moins 4 oméga 0 2, c'est égal 0. On trouve donc une première racine oméga égale 0, quand on la repense là-dedans, ça décrit tout simplement une situation d'équilibre, qu'on a un équilibre, les collisions ne changent pas l'équilibre, le système reste constant, et on a une relation entre la valeur moyenne de R2 et la valeur moyenne de V2, et puis il y a une solution qui est oméga égale plus ou moins 2 oméga 0. Et vous voyez, il n'y a pas de partie imaginaire, donc c'est un mode non amorti qui oscille à la 52 oméga 0, qui est celle que j'aurais trouvée s'il y avait pris le gaz parfait. Si je prends le gaz parfait, R2, forcément, obéit à une règle de sélection, delta n égale 2, donc ça connecte deux niveaux d'oscillateurs séparés de deux unités, qui trouvent 2 oméga 0. Mais vous voyez que ce résultat, valable pour le gaz parfait, reste valable pour la limite hydrodynamique. Et on obtient un résultat qui était connu dès le temps de Boltzmann, hein, c'est connu dans les premiers articles de Boltzmann, c'est que le mode R2 garde la même fréquence et n'a pas d'amortissement, ça c'est une propriété remarquable, quel que soit le taux de collision. Et là, on le retrouve donc très simplement par ce petit calcul. Alors, c'est passé maintenant à un problème un peu moins trivial. Alors, dans l'article cité en référence, article 19, les auteurs étudient le mode quadripolaire, plus exactement le mode M égale 0, qui est une superposition du mode L égale 2, M égale 0, et L égale 0, M égale 0, dans un piège à symétrie cylindrique, parce que L n'est plus un moment quantique, il y a un certain nombre de grandeurs qui sont couplées. Je vais, pour changer un peu, comme vous avez cette partie, je vais prendre un autre exemple plus simple, qui est l'étude du mode ciseau. Donc, je vais appliquer cette méthode à l'étude du mode ciseau, et je reviendrai la semaine prochaine, après la limite hydrodynamique, à l'étude du mode, monopole quadrupole, M égale 0. Donc, j'étudie ici le mode ciseau. Dans un potentiel, que je prends les mêmes notations que celles qui étaient dans le cours 5, je crois, sur les modes ciseaux, qui est un potentiel V extérieur de R, égale 1 demi de M, oméga 0,2, 1 plus epsilon, x2, plus oméga 0,2, 1 moins epsilon, y2, plus oméga z carré, z2. Donc c'est un piège qui est légèrement anisotrope dans le plan x ou y. Et comme vous rappelez, le mode ciseau, c'était un mode qui était le mode en xy. C'était un mode qui tournait comme ceci, sans déformation, si le coefficient du terme xy est petit. Donc ce qu'il faut étudier ici, c'est la valeur moyenne de xy. Alors on va y aller. Donc, je reprends ici. Je voudrais donc comprendre, sur les modes ciseaux, comment ces modes évoluent quand on passe du régime sans collision au régime hydrodynamique. Et je vais donc reprendre exactement la même méthode que pour le mode de respiration, dans un piège sphérique. Simplement, nous allons voir ici que les grandeurs qui sont couplées les unes aux autres, à un certain moment, il y en aura une qui sera sensible aux collisions, et là, il faudra faire des approximations. D'accord? Alors, allons-y. Donc voilà notre potentiel, voilà le gradient de V extérieur sur M, qui va être un vecteur qui a ses trois composantes, linéaire en X, Y, Z, et ce à quoi je m'intéresse, c'est le mode XY, donc je prends une grandeur physique T1, XY, dont le gradient par rapport à R c'est Y, X0, et le gradient par rapport à V c'est 0. Cette grandeur qui ne dépend pas de V est conservée au cours des collisions. Si je reviens ici, ce terme-là, gradient R va me donner quelque chose, ce terme gradient V va me donner 0, ce terme va me donner 0, et le gradient par rapport à R de qui va me donner un X, quand je reviens ici, je m'aperçois que XY, qui est 1, est couplé à XVY plus YVX. D'accord? Vous voyez d'où ça paraît? Ça paraît du fait que c'est le delta R de XY, faudra le multiplier par le... Il faudra multiplier donc ce terme-là par Vx, Vy. Ça va donner Vx fois Y plus Vy fois X. Donc D sur DT de T1 est égal à T2. Donc il faut que j'étudie D sur DT de cette valeur moyenne. Alors, cette grandeur est linéaire en V, elle est aussi conservée au cours des collisions. Donc le dernier terme ici n'intervient pas. Et un calcul tout à fait analogue au précédent va me donner d sur dt de xy plus yvx, c'est deux fois la valeur moyenne de vxy, moins 2 oméga 0,2, la valeur moyenne de xy. Alors je retrouve la fonction de départ, mais je trouve maintenant une grandeur que j'appelle t4, qui est vxy. Alors là, vous voyez tout de suite, là on voit que vxy, lui, n'est pas conservé au cours des collisions, parce qu'il n'a pas la symétrie sphérique. Donc si je calcule d sur dt de t4, collision, je vais avoir ce terme-là, et Q4 de V1 plus Q4 de V2 n'est pas égal à Q4 de V1 plus Q4 de V2. Et à ce moment-là, j'obtiens pour Vx Vy une équation qui est D sur DT de Vx Vy égale moins oméga 0,2 XVy plus YVx, celui-là je le connais, je l'ai déjà trouvé, moins epsilon oméga 0,2 XVy moins YVx, ça c'est le moment cinétique au long de la semaine. Je vois apparaître que cette grandeur-là est couplée au moment cinétique le long de la semaine, avec un coefficient qui est d'autant plus grand que l'anisotropie est plus grande. Et puis, il y a ce terme-là que je ne peux pas évacuer, plus D sur DT de XY, dû aux collisions. J'ai vu apparaître une nouvelle grandeur, qui est XY moins YVX, qui, elle, est insensible aux collisions parce qu'elle est linéaire en V. D'accord? Et quand je la calcule, je trouve que D sur DT de XY moins YVX égale 2 epsilon 0 oméga 0,2 XY, et là, c'est fini. Donc, les grandeurs qui sont couplées c'est XY, XBY plus YBX, DXY, et XY moins YBX. C'est un système de quatre équations couplées, mais maintenant, l'une de ces quatre équations, l'équation pour X, Y, a un terme d'une collision qu'il faut maintenant que je calcule. Et alors maintenant, il faut se poser des problèmes. On va le calculer avec un certain nombre d'approximations que je voudrais discuter. D'abord, je voudrais prendre une approximation naïve et simple. Si ma distribution de vitesse était à l'équilibre, je sais que la distribution de Boltzmann à l'équilibre, c'est efficience moins md2 sur 2kbt. Où les deux, c'est les x carré plus les y carré plus les z carré. Donc, à l'équilibre, les distributions de vitesse sont isotropes. Donc, la valeur moyenne de x et y est nulle. Le terme qui l'embête ici n'apparaît que quand la valeur moyenne de x et y n'est pas nulle. Donc, si cette valeur moyenne n'est pas nulle, ça veut dire que la distribution de vitesse n'est pas à l'équilibre. Et justement, quand le mode vibre, je ne suis pas encore à la limite hydrodynamique où j'atteins l'équilibre local, le système n'est pas à l'équilibre. Alors, quel est l'effet des collisions? Si elle avait des collisions toute seule, qu'est-ce qu'elle ferait? Elle tendrait à rétablir l'équilibre et à rétablir une distribution isotrope. Et avec une constante de temps qui va être déterminée par le temps de collision. Donc, une approximation raisonnable consiste, on sent bien que ça consiste à écrire d sur dt de by, dxy dû aux collisions, égale moins 1 sur taux dxy, un terme de relaxation qui exprime comment la misotropie de la distribution de vitesse tend vers zéro sous l'effet des collisions. Alors, je vais essayer maintenant de faire ça de manière un peu plus soigneuse. Alors, ça consiste à poursuivre la chose suivante, à faire ce qu'on dit en allemand un ansatz. On va, au lieu de prendre une distribution isotrope en vitesse, on va introduire dans la distribution de vitesse une déformation proportionnelle à la quantité qu'on est en train d'étudier en ce moment, qui est VX et Y. Donc, je vais prendre l'ansatz suivant, je vais remplacer la distribution d'équilibre, efficience moins m d2 sur 2kbt, par efficience moins m d2 plus alpha vx vy, le tout divisé par 2kbt. Donc on a introduit une déformation de la distribution de vitesse qui est du type de la grandeur que je veux étudier. Et je vais supposer que cette modification est toute petite. Je vais faire un calcul d'ordre 1 en alpha. Si c'est un calcul d'ordre 1 en alpha, je peux développer l'exponentielle. Le terme d'ordre 0, c'est la distribution d'équilibre. Et je prends donc une distribution dans l'espace des phases, qui est f de r de t, la distribution d'équilibre, que multiplie une déformation 1 moins alpha m dx dy sur 2kbt. Alors, si je prends une distribution de ce type, et que je calcule la valeur moyenne de dx dy, si je reporte donc la distribution précédente, je la multiplie par dx dy, et que j'intègre sur r et v, vous voyez que je vais avoir à calculer la valeur moyenne de vx carré by carré, multiplié par bxy, fois alpha, intégré sur f0. Donc je vais avoir, quand je calcule la valeur moyenne de vxy dans cette distribution déformée, le terme que je vais obtenir, la valeur que je vais obtenir, est proportionnelle à alpha, et proportionnelle à la valeur moyenne de vx carré by carré dans la distribution d'équilibre. Donc ça, c'est un calcul très simple, il est vraiment. Ça tient immédiatement que, dans cette distribution déformée, la valeur moyenne de dx et y, c'est moins alpha m sur 2kbt, la valeur moyenne de dx carré et dy carré dans l'état d'équilibre. Parce que le terme d'ordre 0 donne 0, parce que la valeur moyenne de dx et y dans la distribution d'équilibre est égale à 0. Alors ce terme se calcule immédiatement. En effet, f0 est factorisé en x, y, z, donc la valeur moyenne de dx carré et dy carré, c'est la valeur moyenne de dx carré que multiplie la valeur moyenne de dy carré, et le théorème des partitions d'énergie, 1 demi de mbx carré égale 1 demi de kbt, me donne immédiatement vx carré by carré 0 égale kbt sur m, et je tiens que vx vy égale moins alpha kbt sur m. Donc, je m'aperçois que alpha, le coefficient que j'ai introduit pour déformer ma distribution de vitesse, est proportionnel à la valeur moyenne de vx vy. Donc, alpha et valeur moyenne de vx vy, c'est la même chose. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On reprend cette distribution de Maxwell, cette distribution déformée, et on la remet dans le terme de collision. Ah non, c'est... Excuse. Le terme de collision, il est là. Voilà. prend cette distribution déformée, 1 plus alpha, hein, 1 plus alpha, plus alpha, on développe ça au premier rang, pour regarder que déterminé en alpha est déterminé en 0, et on remplace qui 4 ici par RG. XY. Une fois qu'on a fait ça, qu'on calcule le terme d'ordre le plus bas en alpha, on va voir, ce terme-là va être proportionnel à alpha, qu'on fait un calcul d'ordre 1 inclus en alpha, on va avoir un terme proportionnel à alpha, donc proportionnel avec XY, et XY, ça va être une intégrale sur la distribution définie d'une certaine fonction angulaire, qui se calcule complètement parce que les intégrales angulaires se font, et le reste, ce sont des intégrales gaussiennes. Alors, ce calcul est fait en détail dans la référence 19, dans un Lacanis, il est un peu technique, mais il n'est pas fondamentalement compliqué, et on peut calculer exactement, donc, qu'on reporte la distribution déformée dans l'intégrale de collision, on obtient que d sur dt de dx, dy dû aux collisions, c'est alpha, forcément on fait un calcul d'ordre 1 en alpha, que multiplie k, où k est une intégrale multiple, sur d3r, d3v1, d3v2, d'oméga prime, et puis, comme alpha c'est proportionnel à dx, dy, on peut écrire d sur dt de dx, dy égale moins dx, dy, ou 1 sur taux, ou taux, on va passer ici, j'oublie bien ici, moins 1 sur taux, c'est moins 2m sur k dt fois k, où k c'est intégrale multiple. D'accord? Donc, j'ai justifié la forme simple que j'avais devinée pour le terme dû aux collisions, et j'ai maintenant l'expression explicite du coefficient k, donc du temps taux. Et en fait, vous allez me dire que la référence 19 étudie non pas les modes ciseaux, mais les modes quadripulaires d'un gaz piégé, mais le principe du calcul est le même, et la symétrie du problème entraîne que le coefficient est le même. On peut montrer que le coefficient est le même. Donc, on peut utiliser les résultats de la référence 19, même pour les modes ciseaux. Et ce qu'on obtient, c'est la chose suivante. On trouve que le temps d'amortissement de VXVY, c'est 5 sur... Non, pardon, le temps de relaxation de VXVY, c'est 5 fois un taux de collision, où le taux de collision est donné par une formule qui a une bonne tête. N de 0, la densité spatiale au centre du piège. Sigma 0, la densité efficace. Et bétermique, j'ai oublié de mettre bétermique sur les notes, donc je vais rajouter sur les transparents. Bétermique, la définition est là, c'est 8 kbt sur Pm, racine carrée 2. Alors maintenant, une fois que j'ai fait cette approximation, que j'ai essayé de justifier par des arguments relativement simples, même si les calculs sont un peu techniques, on arrive donc à 4 équations couplées, différentielles linéaires couplées, d sur dt de qi1 égale qi2, d sur dt de qi2 égale 2 qi4 moins 2 oméga 0 de qi1, d sur dt de qi3 égale 2 epsilon 0 de qi1, et puis d sur dt de qi4, les termes hamiltoniens, et le dernier terme, moins qi4 sur taux. Le thème de relaxation. Et on a une expression spécifique sur taux. On a donc un système de 4 équations, différentielles linéaires, on cherche une solution de cette forme, on remet ça là-dedans, et on obtient donc 4 équations algébriques maintenant, qui est ici, et on cherche les valeurs de oméga pour lesquelles la solution de ce système n'est pas la solution trivialement nulle, c'est le déterminant égale 0, et on obtient l'équation suivante, oméga 4, moins 4 oméga 0 2 oméga 2 plus 4 epsilon 2 oméga 0 4 plus oméga sur ito oméga 2 moins 2 oméga 0 2 égale 0. On obtient donc une équation algébrique dont les racines, qui sont en général complexes, vont me donner la fréquence et le taux d'amortissement des modes de vibration. Alors avant de discuter de cette équation, on voit tout de suite deux limites intéressantes. Si le temps taux tend vers l'infini, c'est-à-dire s'il n'y a pas de relaxation due aux collisions, c'est le régime sans collision. Donc si taux tend vers l'infini, ce terme s'en va, le second terme est négligeable, et les solutions sont données par cette équation oméga 4 moins 4 oméga 0 2 oméga 2 plus 4 epsilon 2 oméga 0 4 égale 0. Si au contraire, taux tend vers 0, si le temps de collision devient extrêmement bref, c'est-à-dire j'ai énormément de collisions, donc 1 sur quelque chose qui est cryptique, ça va être très grand, je peux négliger ce terme, et ça fait la limite hydrodynamique, et les fréquences des modes vont m'être données uniquement par ce terme-là. Effectivement, c'est ce que je fais dans le transparent suivant, régime sans collision, donc je garde que le premier terme, est donné par ceci, ça signifie l'équation du second degré en oméga 2, elle se calcule sans problème, et on trouve que les deux racines, c'est oméga sans collision 1, oméga sans collision 2. La première, c'est oméga x plus oméga y, et la deuxième, c'est oméga x moins oméga y, où oméga x et oméga y sont donnés par ces termes que j'ai là. C'est oméga 0,2 1 plus epsilon, ça c'est oméga x carré, et oméga 0,2 1 moins epsilon, c'est oméga y carré. D'accord ? Donc, j'obtiens ici que dans le régime sans collision, on a deux fréquences propres qui vont être oméga x plus oméga y et oméga x moins oméga y, où oméga x et oméga y sont les fréquences du pièce le long de l'axe x et le long de l'axe y. Et là, je retrouve les résultats que j'avais faits dans le cours 5 sur les modes ciseaux, où je m'étais contenté de décrire le gaz comme un gaz parfait. Et en étudiant, en décomposant l'opérateur xy en ax plus ax croix et ay plus ay croix, j'avais trouvé que les deux seuls termes qu'ils pouvaient me donner, c'était les termes, il y avait deux opérateurs de création qui changeaient à la fois nx et ny d'une unité, et la fréquence de bord, c'était oméga x plus oméga y, et puis les autres termes, ax croix, ay, où on augmentait nx d'une unité, on diminuait ny d'une unité, et à ce moment-là, c'était oméga x moins oméga y. Simplement, si je partais de l'état fondamental, je n'avais que la possibilité, l'opérateur de destruction agissant sur l'état fondamental donne 0. Si je pars d'un système condensé dans l'état fondamental, seule la fréquence élevée, oméga x plus oméga y, apparaît. Donc, je retrouve exactement les résultats du cours 5, je crois, oui. Et je trouve ici que les deux fréquences des modes ciseaux ne sont pas amorties. Si je prends maintenant l'autre limite, c'est oméga fois oméga 2 moins 2 oméga 0,2. Bien, une c'est nulle, oméga hydrodynamique 2 est nulle, et l'autre c'est oméga hydrodynamique 1 égale oméga 0 racine de 2. Là aussi, il n'y a pas d'amortissement. Alors, si je reviens à mon équation de tout à l'heure, là, ce terme-là, je peux le mettre sous la forme oméga 2 moins oméga sans collision 1 au carré, comme je dis oméga 2 moins oméga sans collision 2 au carré, et celui-ci, je peux le mettre sous la forme oméga, en multipliant O et bas par oméga 2, par oméga, je vais avoir oméga 2 fois oméga 2 moins 2 oméga 0,2, je vais avoir oméga moins oméga hydrodynamique 1 au carré, fois oméga 2 moins oméga hydrodynamique 2 au carré, donc je peux remettre l'équation que j'ai écrite tout à l'heure sous une forme plus symétrique, plus parlante, qui est celle-ci, oméga 2 moins oméga sans collision 1 au carré, facteur de oméga 2 moins oméga sans collision 2 au carré, plus 1 sur i oméga taux, oméga 2 moins oméga hydrodynamique 1 au carré, oméga 2 moins oméga hydrodynamique 2 au carré, égale 0. Et je vais essayer maintenant de transformer cette équation lorsque l'une des deux fréquences est beaucoup plus grande que l'autre. Si je prends un piège avec oméga x très proche d'oméga y, je vais avoir oméga x plus oméga y très grand devant oméga x moins oméga y. Donc, oméga semi-classique 1 va être très grand devant oméga semi-classique 2. Et de même, oméga hydrodynamique 1, qui est oméga 0 racine de 2, va être très grand devant oméga hydrodynamique 2, qui est 0. Et à ce moment-là, si je me place au voisinage de la fréquence la plus élevée, oméga 2 va être très grand devant oméga semi-classique 2 au carré, et devant oméga hydrodynamique 2 au carré. Donc je peux négliger ce terme, je peux négliger ce terme quand je me place au voisinage de la fréquence du mode le plus élevé. À ce moment-là, donc, je néglige ce terme, les oméga 2 simplifient, et j'obtiens une équation plus simple, qui est oméga 2 moins oméga semi-classique 1 au carré, oméga sans collision 1 au carré, plus 1 sur i oméga taux, oméga 2 moins oméga hydrodynamique 1 au carré égale 0. Ça, ce n'est valable, bien sûr, que si oméga x est très proche d'oméga y, et si je me place au voisinage du mode de fréquence élevée. Et cette équation me permet d'étudier comment, quand je fais varier le taux de collision, je passe de oméga semi-classique 1, sans collision 1, à oméga hydrodynamique 1. Alors, allons-y, on prend cette équation-là, on fait passer le moins i oméga taux oméga 2 dans le premier membre, j'aurai donc oméga 2 fois 1 moins i sur oméga taux égale oméga semi-classique 1 au carré moins i sur oméga taux oméga hydrodynamique 1 au carré. Au deuxième terme, j'ajoute moins i sur oméga taux oméga sans collision 1 au carré plus le retranche, ici. Je réduis le même dénominateur et j'obtiens une formule extrêmement simple et importante, qui est que oméga 2 égale oméga chimique classique 1 au carré plus oméga hydrodynamique 1 au carré moins oméga sans collision 1 au carré divisé par 1 plus i oméga tau. Et je m'aperçois, alors cette formule est très, très parlante, parce que quand ce oméga tau infini, régime sans collision, ce terme est négligeable, je parle de oméga 2 égale oméga chimique classique 1 au carré, et puis quand oméga tau diminue et tend vers 0, ça tend vers 0, et je vois que oméga 2 va tendre vers oméga chimique classique 1 au carré plus oméga hydrodynamique 1 au carré moins oméga sans collision 1 au carré, ça simplifie avec ça, et je retrouve bien, donc je passe continuellement de oméga chimique sans collision 1 à oméga hydrodynamique 1. Et on peut d'ailleurs prendre cette équation, porter sur un axe la partie réelle, sur un autre axe la partie imaginaire de oméga. Et si je porte ça, alors là, excusez, dans les notes, il y a deux erreurs, c'est très supérieur à gamma ici, je vais donc... Ah, là aussi, je m'aperçois. C'est pas égal, c'est plus ici. Oméga égale oméga R plus I gamma, et je prends la limite où oméga R est très grand dans gamma, et ici, j'ai interverti sans collision et hydrodynamique. C'est sans collision 1 au carré moins hydrodynamique 1 au carré. Je m'excuse, il y a trois erreurs dans cette diapo qui m'ont échappé, et même sur la diapo maintenant, il y a un plus ici et non pas égal. Hein. À ce moment-là, je trouve gamma égale taux sur 2, oméga sans collision 1 au carré moins oméga hydrodynamique 1 au carré divisé par 1 plus oméga R taux carré. Et je m'aperçois que le taux d'amortissement, qui est nul pour taux infini, bien sûr parce que en taux infini ce terme devient, en taux 2 l'emporte sur ce terme linéaire en taux, donc le taux d'amortissement nul pour taux infini croît quand taux décroît, passe par un maximum pour oméga R taux de l'ordre 1, puis décroît de nouveau et s'annule quand taux s'annule, parce qu'il est proportionnel à taux. Donc si je porte en abscisse oméga R, en ordonnée gamma, j'obtiens cette courbe. Gamma, c'est le lieu des points, oméga R gamma, quand je fais varier le taux de collision. Et je passe continuellement, donc. Ah, là. Oui, là, je l'ai corrigé sur les notes, mais je ne l'ai pas corrigé sur la diapo. C'est sans collision 1, et ici, c'est hydrodynamique 1. C'est corrigé sur les notes. Hein, c'est corrigé sur les notes. Donc, je pars de là, et mon point représentatif se déplace, et tend ici. Alors, actuellement, il y a la plupart des expériences sur les condensats, sur les nuages thermiques sont réalisées à la limite sans collision, et la plupart des points expérimentaux qu'on a actuellement sont ici. Il se trouve que pour l'hélium l'état stable, le taux, la densité et la section efficace de collision sont suffisamment importants pour qu'on commence à explorer maintenant des régions par là. Et la semaine prochaine, pour terminer le cours, je donnerai quelques résultats préliminaires expérimentaux obtenus dans notre équipe à l'école normale pour montrer comment on commence à essayer de reproduire cette courbe. Alors, avant de terminer, je voulais aussi mentionner que dans la référence 19, il y a un calcul très intéressant qui est fait. Au lieu de faire l'approximation simple que j'ai introduite pour déformer la description du test, on peut faire un calcul de dynamique moléculaire en simulant les collisions, en prenant un ensemble de particules dans une boîte, dans le piège, et en simulant les collisions. Il y a des références à des articles expliquant comment cette simulation de dynamique moléculaire est faite. Et on peut étudier comment la partie réelle et la partie imaginaire de la séquence oméga plus gamma varie en fonction du taux de collision. Et ces courbes donc, qui sont extraites de 19 donnent ici le taux d'amortissement en fonction de l'inverse du taux de collision normalisé en oméga n. Donc ici, c'est un taux de collision infini. Limite hydrodynamique ici, c'est le régime sans collision. D'accord ? La courbe en trait plein et la courbe analytique d'étude de la formule que j'ai donnée tout à l'heure. Donc c'est une formule donc calculée avec le taux, le paramètre taux égal à 5 quarts de gamma collision, ou gamma collision est donné par l'expression N de 0 sigma d thermique. D'accord ? Et les points ici avec les barres d'erreur, c'est les résultats de la simulation de dynamique moléculaire. Vous voyez qu'il y a un excellent accord ici entre donc, le résultat analytique début de l'approximation précédente et le résultat exact en particulier, entre guillemets, d'étude de la simulation dynamique. Et ici, c'est la position de la résonance qui varie donc de 2 en l'absence de collision à 1,55 dans la limite hydrodynamique. Je reviendrai sur le 1,55 la semaine prochaine. Et vous voyez, là aussi, un très bon accord. Donc, vous voyez que cette étude, avec cette méthode d'étude consistant à étudier des valeurs moyennes couplées les unes aux autres et à regarder comment elles déroulent au cours du temps, permet d'obtenir donc une compréhension approfondie de la transition continue entre le régime sans collision et le régime hydrodynamique. Donc je rappelle ici le référent, donc ça c'est la référence 19, ça c'est le Land, et puis il y a une autre approche à ce problème qui est présentée dans ce, cette référence et qui donne des résultats en accord avec ce que je viens de rappeler ici. Et comme toujours, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des points sur ce cours que vous aimeriez discuter? Oui, Alain? Oui, ça veut dire... C'est ça, de manière précise, oméga taux est très très grand devant 1. C'est-à-dire que pendant le libre parcours moyen de collision est beaucoup plus grand que la dimension du mag, où le temps entre deux collisions est très grand devant le temps de vibration dans le piège. Absolument, surtout. Ils sont limités dans le cas potentiel. C'est le caractère quadratique de B de l'extérieur qui permet d'avoir le gradient de l'extérieur proportionnel à X, Y et Z et me donne des équations qui, chaque fois, changent un V en X ou le premier terme lui change un X en V. Ça serait plus complexe, bien sûr, dans un piège qui n'est pas harmonique. Oui, bien sûr, on pourrait aussi appliquer cette méthode. Ah non, il marcherait bien, hein. Bien sûr, il marcherait bien. Isabelle, oui. Il y a une autre façon de le voir, c'est que le mouvement du centre de masse ne dépend pas des collisions. Je crois pas. Je trouve que cette démonstration, c'est la démonstration qui est donnée ici, enfin, qui est donnée dans la référence 19, c'est très simple pour voir que le mode R2, le mode de compression sérique, est insensible aux collisions, qu'il n'est pas amorti. C'est vraiment une méthode extrêmement simple pour établir ce résultat. C'est peut-être un peu plus compliqué par d'autres méthodes. Alors, j'ai appliqué au mode fission, mais comme je l'ai dit, l'avantage, c'est que si vous reportez à l'article 19, vous allez voir la même méthode appliquée au mode quadrupolaire en R2-3Z2 dans un piège à symétrie cylindrique. Mais là, le nombre de grandeurs couplées les unes aux autres n'est plus de 4, il est de 6, hein, je crois. Il y a 6 grandeurs couplées les unes aux autres. Donc c'est un peu plus compliqué. Mais la méthode de calcul est la même, bien sûr. Ah oui. Oui, bien sûr, tu as raison. Mais il faut faire attention dans l'équation de Boltzmann. Dans l'équation de Boltzmann, il faut faire attention. Mais après, oui, bien sûr. Oui, parce que ça me dépend plus du RSV. J'ai insisté sur l'aspect grandeur conservée parce que je pense que c'est un résultat intéressant de voir d'où il sort. Et en plus, ce résultat ensuite sert à établir très simplement qu'on appelle les lois de conservation locale en hydrodynamique, qui jouent un rôle très important, je pense que Alain va revenir dessus, pour l'étude du régime hydrodynamique. Alors ici, évidemment, j'ai absolument pas tenu compte de l'interaction nuage-condensat. C'est un problème extrêmement important, et en particulier les modes d'oscillation couplée, le second son, mais je pense qu'il va en parler, donc je laisse la primeur. Ok? Pas d'autres questions? Bon, donc à tout à l'heure pour le séminaire d'Alain.